Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Halou Mouni.
Chenni Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Les droits des enfants sont-ils protégés au Mali? Protection des droits de l'enfant en période de crise et une responsabilité à partager sur le thème de la 31e journée internationale des droits de l'enfant commémorée chaque 20 novembre. Dans quel contexte est-elle célébrée cette année? Quels sont les défis auxquels les enfants sont confrontés? Jouissent-ils de tous leurs droits? Sont-ils protégés? Plus de 1200 écoles fermées du fait de l'insécurité que font les acteurs pour la réouverture de ces classes. Nos invités pour des éclaircissements, Haruna Asamaki, chef de la division promotion de l'enfant à la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille, Cheikh Omar Djarra, spécialiste de protection de l'enfant à l'UNICEF, Djaminatou Kanouté, présidente du Parlement régional de Bamako, également avec nous au téléphone, Mahamadou Douma Meïga, il est bien sûr le président de la coordination du comité de gestion scolaire du cercle d'Ansongo. Je suis Imran Akilo Meïga, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
La 31e journée internationale des droits de l'enfant est commémorée ce 20 novembre 2020. Monsieur Haruna, dans quel contexte est-elle célébrée cette année?
Merci beaucoup pour cette question. Merci à tous les téléspectateurs. La journée, la 31e anniversaire de la 31e édition de la journée internationale des droits de l'enfant s'est déroulée dans un contexte, comme vous le savez, marqué par les crises. D'abord, la crise sécuritaire depuis 2012. Aussi, la crise sanitaire marquée par Covid-19. Ensuite, d'autres crises sociales que connaît le pays. Donc, vous avez rappelé le thème. Justement, c'est compte tenu de ce contexte particulier des crises que le thème a été choisi. Protection des droits de l'enfant en période de crise. Mais quand on parle de crise, les gens voient seulement la crise sécuritaire. En plus de la crise sécuritaire, il y a la crise sanitaire et les autres crises. Donc, essayez de voir dans quelle mesure, effectivement, on peut protéger les droits des enfants.
Djaminatou, est-ce que les enfants se retrouvent dans ce thème-là?
Oui, les enfants se retrouvent beaucoup dans ce thème parce que les enfants sont beaucoup confrontés d'abord par la pandémie du coronavirus et aussi les crises sociaux qu'il y a au Mali maintenant. Les enfants des zones reculées sont beaucoup touchés par ces crises-là. Alors le thème est vraiment hors du contexte.
Alors, quelles sont les activités prévues au cours de cette journée?
Merci beaucoup à Studio Tamani de nous donner l'opportunité de venir discuter de ce thème si important, la responsabilité partagée de la protection des enfants dans un contexte de crise. Et mes prédécesseurs ont bien brossé le contexte. Je dirais que les activités prévues pour cette journée qui est pour nous une journée phare, c'est d'abord cette table ronde qui est aujourd'hui une opportunité, une activité phare et une opportunité de communication pour faire passer le message de la promotion, pour la promotion et la protection des droits de l'enfant. En plus de cette activité, il y a aussi des activités qui sont prévues pour la prise de commande des rôles des membres de l'administration publique par les enfants. Ça veut dire que concrètement, pendant une journée, un enfant peut devenir directeur régional de la promotion de l'enfant et de la famille, un enfant peut devenir directeur de l'académie d'enseignement et un enfant peut devenir représentant de l'UNICEF. Et pendant toute la journée, c'est lui qui va gérer la boîte en lieu et place des adultes. Et il y a aussi la participation des centaines d'enfants et jeunes qui sont venus de toutes les régions à la rencontre culturelle, artistique, Équation Nomade. Ça, c'est effectivement une rencontre, une activité phare. Comment impliquer les enfants et les adolescents dans la conversation et la transmission de messages. Et aussi les adolescents dans la transmission, à savoir le numérique, etc. Il y a, donc voilà un certain nombre d'activités que j'ai tiré par plusieurs autres qui vont vraiment émailler toute la semaine.
Mahamadou Adouma Maïga, vous vous êtes au nord. Est-ce qu'on peut dire que cette journée est organisée à l'endroit de tous les enfants du Mali? Vous êtes là? Alors, il va nous revenir Mahamadou Adouma Maïga, qui est bien sûr le président de la coordination des comités de gestion scolaire du cercle dans Onsongo. Alors, Djaminatou, comment les enfants se sentent aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que les enfants se sentent en sécurité?
Moi, je peux dire que c'est 50-50, parce que déjà, les ONG et le Parlement des enfants, avec l'accompagnement de la DNPF, qui est notre tutelle, a beaucoup fait pour les enfants d'aujourd'hui, parce que les activités ont été menées pour la sécurité des enfants, surtout dans les zones de conflits armés. Mais jusqu'à présent, il y a beaucoup d'endroits où les enfants ne sont pas protégés, parce que on voit que il y a beaucoup à faire encore. Je peux dire que ça va, mais il y a beaucoup à faire encore.
Qu'est-ce qu'il y a à faire?
Il y a du travail à faire, des activités à mener pour la sécurité des enfants.
Alors, il y a beaucoup à faire. La particularité de cette journée, c'est bien sûr la protection des droits de l'enfant en période de crise. Peut-on en parler de droits des enfants au Mali, Samake?
Merci bien pour cette question. Mais avant, je voulais compléter mon collègue Cheikh Oumar par rapport aux activités programmées cette année pour la journée des 20 novembre, parce qu'on ne peut pas ne pas en parler. Je voulais ajouter à la liste qu'il a eu déjà à se poser. D'abord dire que cette année, la cérémonie officielle de célébration aura lieu à Koulikoro. Donc ce sera de l'école de Bouanko pour aller à Koulikoro. Et c'est la ministre qui sera avec nous, ministre de la Protection de l'enfant, de la famille. Et parmi les activités phares retenues pour cette commémoration au niveau de Koulikoro, il y a le vernissage des dessins et du mur des enfants. Vous savez, il y a en 2018, il y a eu un mur qu'on a commencé à Bamako, le mur bleu qui part, où il y a déjà sur la route de l'hôtel, de l'aéroport. Donc, on a reproduit effectivement avec l'UNICEF ces murs aussi au niveau de beaucoup de régions. Et cette année, ce mur a été reproduit à Koulikoro et à Sego. Donc, c'est l'occasion, effectivement, ces murs seront, sinon ce mur sera inauguré, donc il y aura le vernissage. Mais en plus du vernissage, il y aura aussi un débat intergénérationnel. Ce débat intergénérationnel va être effectivement animé par les enfants communicateurs et qui vont adresser des questions à Madame la ministre et aux représentants de l'UNICEF par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment important. D'abord sur la mise en œuvre de la convention relative aux droits de l'enfant, parce que c'est de là qu'il s'agit. Ensuite, les réalisations qui ont été faites, les défis et les perspectives. Donc, les questions, les débats vont porter sur ça. Ensuite, il y aura effectivement d'autres activités d'information et de communication qui vont continuer tout au long de la journée. Mais pour dire que, franchement, c'est l'occasion pour nous de mobiliser l'ensemble des populations, des acteurs et de la population autour des questions de protection de l'enfant, surtout par rapport à la crise.
Question de protection de l'enfant, est-ce que les enfants se sentent protégés au Mali?
Non, on ne peut pas dire que les enfants se sentent pas. Vous savez, la protection de l'enfant, c'est un problème très complexe. C'est très compliqué que vous venez passer. Surtout en période de crise. Vous savez que lorsqu'il y a une crise, ça bouleverse l'ordre préétabli. Souvent, ça met en cause, ça met dans l'eau tout ce qui a été fait comme réalisation. Et c'est ce qui s'est passé au Mali. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été anéantis par rapport à la crise. La crise sécuritaire, la crise sanitaire par rapport au Covid nous a parlé de beaucoup d'écoles qui ont été fermées. Si un des droits de l'enfant, c'est d'aller à l'école, faudrait-il que cet enfant aussi soit sécurisé sur le parcours, hein, sur le chemin de l'école, tout comme à l'école et au retour. Donc, c'est un problème très complexe. Des efforts ont été faits pour faire en sorte que l'enfant, partout où il est, soit protégé, autant que possible. Mais vous comprendrez qu'il y a ces aspects, ces facteurs qui échappent et qui sont liés à la crise, qui font qu'on devient impuissant. Quand on dit « on », nous, acteurs, et même l'État, effectivement, on devient impuissant par rapport à certaines situations dans lesquelles les enfants se trouvent. Mais les efforts sont là, l'État et ses partenaires, évidemment, pour faire en sorte que, malgré la crise, comment atténuer l'effet de la crise effectivement sur les enfants. Et voilà tout le combat actuel effectivement, sinon depuis longtemps qui a été mené et qui continue à être mené parce que en temps de crise comme en temps de développement, la protection doit être une garantie. La protection des droits des enfants doit être une garantie malgré le contexte.
Est-ce que vous avez cette, l'impression de cette garantie dont il parle? La protection de l'enfant, est-ce qu'elle est garantie au Mali?
Oui, la protection de l'enfant, elle est garantie au Mali, mais comme je l'avais dit tantôt, il y a beaucoup à faire encore. Juste pour appuyer Tonton Koulibaly, la question sur la protection de Tonton Samaki, la protection sur la... de parler sur la protection de l'enfant, c'est très complexe en fait, parce que c'est différents domaines, c'est différents droits qu'on doit protéger. Et Inch'Allah, avec l'accompagnement de la DNPF, de l'UNICEF, des autres ONG, tous les enfants du Mali seront protégés.
Vous êtes spécialiste de protection de l'enfant. Comment les enfants sont-ils affectés par la crise au Mali?
Ok, merci beaucoup. Bon, les enfants sont affectés par la crise au Mali sous différentes formes. Il y a d'abord sur le plan psychologique, par exemple, les questions de crise des enfants au nord sont déjà souvent victimes ou témoins de certaines situations que normalement un enfant ne devrait pas voir. Donc psychologiquement, les enfants sont affectés par la crise.
Ils sont touchés psychologiquement comment?
Psychologiquement, ça veut dire que quand un enfant n'a pas l'habitude de voir certaines scènes de violence, ou si l'enfant lui-même il a été exposé à la violence, comme par exemple un enfant enrôlé dans les groupes armés, qui va vraiment assister à des atrocités ou bien qui va même être impliqué dans des atrocités, on le sort de là, il va de soi que psychologiquement, il va traîner les séquelles de cette situation derrière lui. Mais au-delà de ça, par exemple, le fait que dans le contexte de la COVID-19, où les services sociaux de base sont fermés, les enfants se retrouvent dans une situation de privation de certains services qui leur étaient familiers et qu'on leur donnait régulièrement. Donc, au-delà de l'aspect psychologique, il y a même cet aspect physique que les enfants peuvent vivre, peuvent être exposés dans la situation. Comme par exemple aujourd'hui, il y a une exacerbation des questions de pratiques traditionnelles néfastes, comme le mariage d'enfants, là où il n'y a pas d'autorité pour empêcher ça, ou alors les questions d'excision. Donc voilà un peu un certain nombre de situations qui étaient là avant la crise, mais qui aujourd'hui, avec les deux crises, sont vraiment en train d'être exacerbés. Et ça, on peut dire que les enfants, la protection des enfants, certes, on est en train d'y travailler, mais la situation, la dégradation du contexte aujourd'hui fait qu'on a encore beaucoup de travail, beaucoup d'efforts à faire.
Et quels sont ces défis-là à relever pour les enfants?
Ok, les défis à relever pour les enfants, il y a d'abord un défi sur le plan législatif et réglementaire. Il y a effectivement, le Mali a signé beaucoup d'accords internationaux, régionaux, etc., mais qui n'ont pas été accompagnés de mesures d'accompagnement, de mesures de mise en œuvre. Du coup, on se retrouve avec toute une panoplie de conventions, de droits, mais qui ne sont pas accompagnées. Donc, dans un premier temps, ça, c'est un défi important. L'autre défi important, je l'ai dit tantôt, le fait que les services sociaux de base qui sont là au niveau des localités et qui sont partis, il faut quand même faire revenir ces services sociaux de base pour assurer quand même, donner le minimum de cadre de protection à l'enfant. Samaké l'a dit tantôt dans son intervention, la crise a aussi déstructuré les familles, on peut dire, vraiment a désorganisé les familles. Et aujourd'hui, toutes ces questions d'éducation, ces questions de protection des enfants dans certains contextes particulièrement difficiles, les parents ne sont pas là. Or, les parents, la famille est le premier cercle de protection de l'enfant. Donc, il y a vraiment énormément de défis. Et l'autre défi aujourd'hui, c'est qu'est-ce que les enfants eux-mêmes peuvent faire. Aujourd'hui, ils ont de moins en moins l'opportunité, en tout cas, de prendre en main leur propre destin.
Vous avez le moyen de prendre votre propre destin en main. Qu'est-ce que les enfants sont en train de faire pour leur propre protection?
Alors, Merci Taba pour la question. Les enfants sont en train de faire énormément de choses pour la protection de, sur la question de leur protection. Il y a d'abord le Parlement des enfants du Mali, qui est la voix des sans-voix, qui est en train d'organiser beaucoup d'activités pour la protection de l'enfance. Et comme l'a dit Tonton, il y a même le Child Takeover qui est en train de s'organiser. Les enfants vont prendre le pouvoir, prendre des décisions, parce que les enfants sont capables de beaucoup de choses. Et il y a énormément beaucoup de choses qu'on prépare. On a la conférence de presse qu'on est en train de préparer pour la réouverture des 2000 écoles, parce qu'il y a plusieurs écoles qui sont fermées. Et l'éducation des enfants compte énormément. Donc il y a beaucoup, énormément qu'on doit faire encore.
Lesquels de vos droits sont protégés au Mali?
Alors, on peut dire que y a des droits qui sont protégés, mais on ne peut pas citer entre autres. Mais la participation des enfants, l'opinion de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant, comme le dit la CEDEAO, est protégé ici au Mali, on peut dire. On peut prendre exemple sur l'équation nomade. Il y a plus de 100 enfants, 150 jeunes qui participent à l'équation nomade. Les enfants participent à la prise de leurs décisions. Notamment, on fait les audiences avec les ministres pour ça. On prend les décisions ensemble concernant les enfants.
Monsieur Diarra parlait tout de suite des enfants qui subissent le séquel de la insécurité au nord du pays et dans les zones d'insécurité. Est-ce que les enfants qui sont dans les zones d'insécurité bénéficient-ils du même droit que ceux qui sont dans les zones sécurisées,
monsieur? Bon, je voulais encore rajouter par rapport, quand vous parlez de la question, dire que est-ce que les droits des enfants sont garantis au Mali? Les droits des enfants sont garantis au Mali parce que l'élément de base sur lequel on se base, c'est les tests qui sont là, qui garantissent, à commencer par la Constitution du Mali, qui garantissent effectivement la liberté et la protection des droits de tout un chacun. Maintenant, des questions spécifiques, vous savez que nous, en tant que structure en charge des questions de l'enfance, il y a une politique en la matière. Politique nationale de promotion des protections de l'enfant, tout comme politique nationale de promotion de la famille, parce que l'enfant et la famille, vraiment, c'est tellement, le lien est tellement étroit que franchement, c'est difficile pour nous de les dissocier. Mais en plus de ça, puisqu'on parle de crise, on est dans un contexte de crise, on a vu qu'il y a eu des tests spécifiques qui ont été pris par rapport à la protection des enfants en situation de crise. Il a fait allusion un moment aux enfants associés aux forces, aux groupes armés. Il y a une circulaire depuis février 2013, lorsque les premiers enfants associés aux forces de groupes venaient à être retirés. Effectivement, il y a été traité là, la circulaire interministérielle relative à la prévention, la protection et au retour en famille des enfants sur des groupes armés. Ensuite, il y a un protocole entre le système des Nations Unies du Mali et le gouvernement du Mali par rapport au transfert des enfants sortis des groupes armés. Donc, vous voyez déjà, ça, c'est le test spécifique qui protège les enfants, surtout ceux associés aux forces, aux groupes armés. Maintenant, et votre question par rapport aux défis, on a parlé des défis. Les défis, on l'a dit, un des défis majeurs pour nous, d'abord, c'est la mise en œuvre, c'est l'application des tests, c'est-à-dire que des conventions qui ont été ratifiées par le Mali. Vous savez, il y a un problème sérieux d'harmonisation des tests que le Mali a eu à adopter avec les tests nationaux. Donc, un des défis, c'est comment arriver effectivement à harmoniser les tests nationaux avec les conventions internationales que le Mali a eu à ratifier et faire en sorte que, franchement, la mise en œuvre des droits des enfants puisse être beaucoup plus soutenue, non seulement par l'allocation des ressources, vraiment. On voit que les ressources ne sont jamais suffisantes, mais vraiment des ressources conséquentes par rapport, effectivement, pour la prise en charge de ces questions de protection de l'enfant, mais aussi faire en sorte que, vraiment, toute la coordination des différentes interventions, c'est-à-dire de l'ensemble des interventions, vous savez que c'est un domaine transversal et il y a beaucoup d'intervenants. Nous, en tant que structure, quand je dis nous, le ministère, à travers la Direction nationale de l'enfant et de la famille, il y a effectivement ce problème de coordination des interventions des uns et des autres dans le domaine. Donc, ça aussi, c'est un défi à relever. Donc, les défis sont immenses et les besoins aussi sont immenses. Les ressources aussi, malheureusement, font défaut. Alors, comment concilier effectivement ces équations-là?
D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose?
Non, non.
Alors, on parle de protection de l'enfant. Vous n'avez pas tout à fait répondu à la question que j'ai posée. Je disais que tout simplement, est-ce qu'on peut dire que les enfants qui sont dans les zones d'insécurité bénéficient du même droit que ceux qui sont dans les zones de sécurité?
D'abord, ils ont les mêmes droits. Maintenant, ça c'est un principe qui est retenu. Tous les enfants ont le même droit, quelles qu'en soient les zones de résidence et de la situation. Maintenant, la jouissance des droits, selon qu'on soit dans une zone, effectivement, ça peut varier. Parce qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de facteurs, effectivement, qui puissent permettre aux acteurs, effectivement, d'offrir des services de protection des enfants, pour que les enfants puissent bénéficier, etc. Il a parlé de l'accès des services sur des bases. Dans une zone où il est pratiquement impossible d'accéder, d'aller se soigner, d'aller à l'école, d'aller se faire enregistrer à la naissance. Donc, vous voyez déjà, ces enfants auront du mal à jouir de ces services-là. Mais cela ne pas parce que l'État n'a pas la volonté, non. Ou bien les partenaires n'ont pas la volonté, non. C'est parce que le contexte est tel qu'il est difficile. S'il faut aller rendre service et perdre la vie, moi, je pense que quelque part, c'est une équation difficile à résoudre. Donc, pour dire que, de façon, par principe, tous les enfants ont les mêmes droits, mais la jouissance des droits, effectivement, est liée aussi à des facteurs souvent qui dépassent, effectivement, que nous ne maîtrisons pas, que l'État ne maîtrise pas, ou bien que les partenaires ne maîtrisent pas. Donc, il faut l'union, ou bien il faut qu'il y ait un certain nombre de facteurs favorable effectivement à la gestion de ces droits ou bien à l'exercice de ces droits.
La technique me signale que Mahamadou Adouma Maïga, qui est le président de la coordination des comités de gestion scolaire du Cercle d'Ansongo, est finalement avec nous. Mahamadou Adouma Maïga, nous parlons de protection des droits à des enfants. Vous êtes au nord du Mali. Est-ce qu'on peut dire que quels sont les défis auxquels les enfants sont confrontés au nord en termes de protection?
Bon, le défi auquel les enfants sont confrontés en ces termes, c'est surtout le défi sécuritaire, avec son corollaire du fait que les enfants n'iront plus à l'école. En dehors des centres urbains, les enfants n'ont plus le droit à la scolarisation. Parce que depuis un certain temps, toutes les classes sont fermées à cause de la situation sécuritaire. Donc, seuls les centres urbains et quelques petits villages à côté des centres urbains seulement sont ouverts aux enfants. Donc, ça c'est un. Secondo, il n'y a aucune structure. Il n'y a pas de structure pour enregistrer les naissances. N'est-ce pas pour faire des actes de naissance. Voici tant de droits auxquels les enfants ont droit, mais qui, du fait de cette situation sécuritaire, les enfants ne bénéficient plus de ces droits-là aujourd'hui.
Il dit que les enfants ne bénéficient plus de leurs droits. Aucune structure n'est présente pour faire des actes de naissance. Comment le Parlement des enfants comprend cette situation?
Alors, c'est assez complexe pour nous, en tant que Parlement des enfants, d'abord d'aller dans ces zones-là, parce que c'est des zones d'insécurité, on peut dire. Mais comme Tonton Samake l'a dit, tous les enfants ont les mêmes droits. Tous les enfants doivent bénéficier des mêmes droits. Mais vu qu'il l'a souligné aussi, c'est difficile même d'aller enregistrer son enfant. La question sera complexe que le Parlement des enfants se rendent à ces endroits-là pour travailler. Mais on fait des audiences avec le gouvernement, les ONG, pour apporter du soutien à ces zones-là aux enfants qui sont dans les zones d'insécurité.
L'UNICEF intervient dans les zones d'insécurité. Comment vous comprenez une telle situation au nord du Mali, que les enfants ne bénéficient pas des actes de naissance, le minimum qu'ils peuvent y avoir?
Alors, l'UNICEF intervient effectivement sur ces questions et au mois de janvier, nous avons organisé un atelier ici à Bamako avec les responsables de ces zones vraiment difficiles d'accès pour réfléchir sur une stratégie sur comment atteindre les enfants dans ces zones-là. Et on peut dire qu'aujourd'hui, les enfants ne jouissent pas de tous les droits, mais on ne peut pas dire aussi que les enfants ne jouissent pas de leurs droits. Par exemple, si on prend la question d'enregistrement des naissances, nous voyons la chose en termes de disponibilité des services, que les agents de déclaration sont là, les officiers d'état civil sont là. Par contre, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a quand même des solutions alternatives qui sont développées par les communautés elles-mêmes à l'interne et qui sont vraiment en contact avec les autorités de l'état civil. Donc, ça veut dire que depuis 2012, avec le départ massif des services techniques, les communautés elles-mêmes ont développé leur propre stratégie pour ne pas rester vraiment dans cette situation-là. Et c'est aujourd'hui, pour moi, le grand défi, c'est de comment aider, en tout cas, ces initiatives locales développées qui ont permis à ces communautés quand même de tenir pour pouvoir effectivement les aider à valoriser ces initiatives-là.
Quelles sont les initiatives prises par l'État pour aider ces personnes-là qui sont dans des zones d'insécurité afin que les enfants puissent jouir de tous leurs droits?
Oui, justement, c'est ce que je disais. À un moment, je faisais allusion à tout ce qui est test spécifique par rapport à la protection, à la prise en charge des enfants affectés par la crise, notamment les enfants associés aux forces, aux groupes armés. Mais vous savez, il y a des zones où l'État est avec des partenaires. Il y a des partenaires qui sont socialisés par rapport à la prise en charge psychosociale. C'est-à-dire des enfants qui ont été affectés, qui ont subi vraiment des chocs traumatiques. Il y a des partenaires qui sont socialisés dans ça. Donc, il faut des offres de services dans ce sens, qui font la prise en charge. Il y a d'autres aussi qui sont socialisés par rapport à tout ce qui est appui alimentaire et des non-vivres. Ils sont dans ça. Donc, les rôles sont répartis par chaque partenaire dans une zone déterminée, effectivement, faire des prestations, faire des autres services par rapport à des cibles. Donc, il y a une complémentarité assez nouveau. Et la logique voudrait quand même qu'il y ait une synergie effectivement entre les différentes acteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra que l'État, dans sa mission régalienne de coordination et de veille, et de suivi des actions des partenaires, fasse de sorte qu'il puisse avoir une synergie, une complémentarité entre les acteurs sur le terrain et non une rivalité entre guillemets entre les acteurs. Parce que seul, on va pas réussir, mais c'est ensemble, effectivement, c'est la coordination et la mutualisation des ressources sur lesquelles, effectivement, il faut mettre l'accent. Donc, je pense que par rapport à ces sujets complexes, les besoins sont là, mais vous avez vu que souvent, il y a même un problème d'accès des humanitaires à ces cibles-là. Vous avez des moyens, vous savez où il faut aller, mais vous n'êtes pas en mesure d'aller. Ça, c'est un problème et ça, c'est un défi, effectivement, qui se pose souvent aux acteurs humanitaires. À
quand un changement par rapport à cette situation?
Le changement, oui. Je ne peux pas dire à quand le changement, mais lorsque nous arriverons à mettre fin à la crise-là, c'est en ce moment que tous les enfants, effectivement, vont être soulagés. Mais tant que la crise va persister, tant qu'il y aura des zones, des enfants dans le dernier kilomètre carré du pays qui n'ont pas accès à ces ressources, donc on n'a pas encore fini. Donc, à quand, si aujourd'hui, par coup de baguette magique, on mettait fin à la crise, tous ces problèmes seraient des vieux souvenirs. Mais malheureusement, on est loin d'être à ce niveau.
Mahamadou Douma Maïga, comment vous comprenez que tous les enfants ne sont pas traités de la même manière?
Bon, moi, je pense que, comme tu l'as si bien dit, il y a vraiment des aspects sécuritaires. Mais nous, au Nord, on pense que l'État n'a pas pris de bonnes dispositions par rapport à cet état de fait. J'ai suivi, certes, il y a des dispositions prises par les communautés pour l'enregistrement des naissances, pour que les enfants puissent avoir des actes de naissance, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il y a des enfants déplacés qui n'ont pas droit à l'éducation, n'est-ce pas? Qui sont dans les camps de réfugiés, qui sont dans des villes, n'est-ce pas, où presque il y a des problèmes de salle de classe. On peut dire que ces enfants n'ont pas vu carrément l'année scolaire du fait de leur déplacement. Donc, ils ne savent pas où aller, n'est-ce pas? Ensuite, les enfants qui sont aussi dans les villages, ils n'étudient plus depuis, ils ont perdu le droit à l'instruction, n'est-ce pas? Alors que quelque part, les enfants sont en train d'étudier normalement, c'est vraiment une disparité. Ça ne s'explique pas que dans le même pays, certains enfants soient totalement dans leurs droits et à l'intérieur du même pays, d'autres en partie, ils n'ont pas de droits.
Il dit que l'État n'a pas pris des vraies dispositions pour permettre aux enfants de jouir de tous leurs droits, de leurs droits à l'éducation, de leurs droits à la protection. Est-ce que le Parlement des enfants partage cet avis?
Moi je vais être sincère, je ne suis pas d'accord parce que l'État a pris des dispositions et l'État a travaillé avec les enfants pour que ces enfants qui sont dans les zones reculées, dans les zones d'insécurité, jouissent de leurs droits. Et on a fait plusieurs activités ensemble, et même le Parlement des enfants, parce que le Parlement des enfants existe partout dans le Mali, dans chaque région, on peut dire. À Kidal, on a fait des activités avec le Parlement des enfants de Kidal par rapport à la pandémie COVID-19. Donc, on a été aidé par le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. On peut considérer ça comme l'État.
Des milliers d'enfants ne bénéficient pas de leur droit à l'éducation. Comment l'UNICEF comprend cette situation?
Bon, l'UNICEF comprend cette situation comme, encore une fois, une privation des enfants de leurs droits, un de leurs droits les plus fondamentaux. C'est une situation qui n'est pas reluisante déjà, surtout que vraiment l'éducation des enfants fait partie du mandat de l'UNICEF. Et l'UNICEF travaille d'arrache-pied avec les partenaires au niveau opérationnel pour quand même d'abord la réouverture de l'école. Mais comme je l'ai toujours dit, nous n'utilisons pas toujours les facteurs endogènes, les acteurs au niveau local qui peuvent apporter des solutions de transition à ces questions en attendant que l'objectif que nous recherchons, qui est le retour effectif de l'État dans tous ces coins, puisse avoir lieu. Sinon, je trouve que vraiment que les enfants ne partent pas à l'école dans certaines localités, ce n'est pas vraiment du tout une question qu'on peut comprendre vraiment à l'UNICEF. La preuve est que même à Bamako, ici, il y a beaucoup d'enfants qui sont là à cause des grèves interminables, à cause de choses qui sont là, qui sont en train de rater le train de la vie pour nous. Donc, honnêtement, je pense qu'il faut qu'on essaye d'aller au-delà de ce que nous sommes en train de voir toujours comme la solution. Les écoles doivent être... La réouverture des écoles, ça doit se faire, mais il faut le faire aussi avec les solutions vraiment endogènes au niveau des communautés. Les communautés ont beaucoup de ressources que nous n'exploitons pas.
L'État ne fournit pas assez d'efforts pour permettre aux enfants de jouir de tous leurs droits à l'éducation. L'État fait tout pour que les enfants puissent aller à l'école. Deux intervenants, selon Mahamadou Doumamaïga et la présidente du Parlement régional des enfants de Bamako. Qu'est-ce que fait l'État pour la réouverture des classes fermées, notamment dans les zones d'insécurité?
Vous posez la question?
Oui.
Ok, merci bien. J'aurais voulu que quelqu'un un représentant du ministère de l'Éducation ou bien la direction nationale de l'enseignement fondamental soit là. Parce que c'est vraiment leur domaine spécifique, pour bien aborder cette question. Mais je sais quand même qu'à mon niveau, à notre niveau, parce que la protection étant transversale, effectivement, on voit que le ministère de l'Éducation, par rapport à la sécurisation des écoles, en période de conflit, contre les attaques, je pense que le ministère, le Mali a eu à endosser, effectivement, la déclaration sur la sécurité des écoles pendant la période de crise. Alors, c'est que ça accompagne, cette déclaration, l'endossement est accompagné d'un certain nombre d'actions, en tout cas pour le professionnaliser. Et je sais que si le ministère était là, ils allaient nous donner assez de détails. Mais pour dire qu'on ne peut pas aller au-delà de ses capacités.
Dans des zones d'insécurité, des enfants sont exposés à des restes d'explosifs. Quel est leur état de santé aujourd'hui?
Bon, moi, je ne peux pas vous dire tout de suite quel est l'état spécifique par enfant. Mais ce que je peux dire, c'est que il y a des partenaires, effectivement, qui ont des programmes spécifiques par rapport à la protection des enfants contre les restes explosifs de guerre ou bien contre les agents explosifs improvisés. Et je sais que la Direction nationale de l'enfant et de la famille, nous avons effectivement, en partenariat avec l'UNICEF, développé des supports de communication et d'éducation par rapport aux risques liés à ces agents, justement. Et on avait donc ces ONG, effectivement, venaient s'approvisionner chez nous par rapport à ces supports-là. C'était pour éduquer les gens, sensibiliser le comportement à risque, ou le bon comportement à adopter pour effectivement se protéger contre ces agents qui sont enfouis au sol. Donc là, les efforts sont faits, mais ce n'est pas suffisant. Vous avez des cas d'amputation, des cas de mort, donc ça fait beaucoup de victimes. Et c'est pourquoi la question est tellement complexe que ce n'est pas un seul partenaire qui peut résoudre, mais c'est la conjonction des efforts. Il y a ces partenaires qui sont spécialisés par rapport à la détection, d'autres sont spécialisés par rapport à la prise en charge des victimes, d'autres sont spécialisés par rapport à la communication, c'est-à-dire l'information, la sensibilisation, l'éducation aux risques liés aux risques explosifs de guerre.
Mahamadou Douma Maïga, vous êtes en Songo. On sait qu'en Songo, plusieurs enfants ont été victimes des restes d'explosifs. Comment ils se sentent aujourd'hui?
Les enfants se sentent abandonnés parce que il a bénéficié d'un premier soin, mais il y a toujours les parts de ces explosifs. Et on est même à perdre des années scolaires du fait de ces handicaps ou sont devenus même des handicapés. C'est ça. La conséquence de ces explosifs. Donc, il y a quand même une situation un peu dramatique, n'est-ce pas, par rapport à un manque de suivi et de prise en charge complexe. Il y a certes une première prise en charge, mais par la suite, ils sont abandonnés à l'autre, qui n'ont pas les moyens, les enfants qui ont développé des handicaps.
Donc, ils n'ont bénéficié d'aucune prise en charge?
Dans un premier temps, ils prennent une prise en charge. Dans un premier temps, mais dès que ça commence à aller un peu, le type peut se remettre sur le pied, il est laissé à ses parents. Donc, c'est les parents qui doivent continuer pour faire le reste. Et si les parents n'ont pas les moyens, c'est vraiment un handicap.
Les enfants victimes d'engins explosifs, qu'est-ce que prévu du côté de l'UNICEF pour ces victimes-là?
Ok. Les enfants victimes de restes d'explosifs, il y a deux aspects là-dedans qui sont prévus. Il y a d'abord, comme Aruna l'a dit, comment faire pour éviter aux enfants d'arriver vraiment à ces restes d'explosifs de guerre. Souvent, c'est des balles qui sont abandonnées, des anciens obus qui sont là, et les enfants viennent, ils touchent, ils jouent avec ça, et ça peut exploser. Donc, il y a cet aspect prévention qui est basé sur l'information et la sensibilisation. C'est quoi un reste d'explosif de mine, etc. Et comment, quand on découvre ça, comment s'y prendre pour ne pas le faire. Et là, on a mis en place toute une série de responsables. Si toi, par exemple, en jouant, on tombe sur quelque chose, un engin qu'on ne connaît pas, il faut juste retourner et les images le montrent bien pour aller informer le chef de village, etc., qui, à son tour, trouve quand même au sein de la communauté un responsable de la santé ou de la sécurité pour aller regarder et enlever cela. Mais au-delà de tout ça, il reste quand même qu'il y a certains qui sont de surface et d'autres sont sous le sol. Donc, il y a malheureusement des victimes parce que quand on ne sait pas, en marchant dans le champ, on monte sur des mines antipersonnelles. Dès que tu soulèves les pieds, ça explose et ça part avec une partie du membre. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Et dans le cas pareil, c'est vraiment des acteurs avec Handicap International et d'autres acteurs qui sont spécialisés dans la réponse, ont formé, en tout cas dans le temps, avec l'accompagnement de l'UNICEF, beaucoup d'acteurs sur le terrain pour déjà apporter les premiers soins, en tout cas à ces enfants-là. Mais au-delà de ces premiers soins qui sont au niveau de la santé, c'est tout l'aspect prise en charge psychosociale. Parce que ça, c'est vraiment encore beaucoup plus important que les traumatismes liés à cette situation. Comme Mahamadou vient de le dire, il dit qu'après, en tout cas, l'accident, on va à l'hôpital, on essaie d'arrêter l'hémorragie, on essaie de sauver le membre, etc. Mais après, on se voit amputé d'une partie de son corps. Et comment gérer ces traumatismes-là? C'est là où l'UNICEF intervient beaucoup avec des acteurs qui vont vraiment accompagner l'enfant dans la prise en charge psychosociale pour qu'il puisse remonter son handicap.
Comment le Parlement des enfants comprend-il qu'une telle situation arrive à des enfants qui sont victimes des restes d'explosifs et qui ne sont pas assistés?
Nous, on comprend ça. C'est vraiment grave. Parce que les enfants, il y a des milliers de vies qui sont... Les enfants sont en train de perdre la vie comme ça, alors que les enfants sont l'avenir de ce pays. On représente beaucoup dans ce pays. Et je pense que ce soit le gouvernement, que ce soit les ONG, que ce soit la DNPF, ils doivent prendre des dispositions pour que cela cesse. Il y a les enfants, ils veulent aller à l'école, ils ne veulent pas être victimes de ça.
Des politiques de protection de l'enfance sont mises en place. Qu'est-ce qui entrave, selon vous, M. Samake, ces initiatives-là?
Merci bien. Vous savez, il y a beaucoup de facteurs qui concourent, qui constituent des blocages par rapport à la mise en œuvre effective de ces documents de politique, de l'implantation. Comme je dis, la sécurité, là. La sécurité, c'est un élément où dépend beaucoup d'autres éléments. Lorsque on vient de parler des cas des enfants victimes des restes de guerre, souvent, ça intervient dans des zones très éloignées, dans des zones inaccessibles pratiquement. Alors, ces cas, même si on venait à les référer dans une structure de santé, vous allez voir que le plateau technique, soit la structure de santé ne fonctionne pas, ou bien le plateau technique n'est pas approprié effectivement pour offrir un endroit pour la prise en charge spécifique de ces cas-là. Donc, pour dire que c'est la sécurité. C'est elle qui détermine beaucoup d'autres. C'est elle qui permet, si vous avez une zone sécurisée, si vous êtes dans une zone sécurisée, vous avez la chance d'accéder à beaucoup de services. Mais lorsque la sécurité n'est pas là, franchement, ça met en cause, ça bloque toutes les autres actions d'offre de services. Oui, déjà, peut-être que cet enfant qui n'a pas bénéficié, c'est vrai, il y a aussi d'autres aspects liés peut-être au système de prise en charge. Quand je prends l'exemple par rapport aux enfants associés aux forces de gouvernement, il y a tout un système qui est là. Lorsque l'enfant est remis, il y a une prise en charge qui se déclenche. Et après, jusqu'à la réunification de l'enfant à sa famille. Donc moi, je pense qu'on peut encore mieux faire par rapport à la prise en charge de ces enfants victimes des restes explosifs de guerre. Mais comme on l'a dit, il faudrait bien que ces zones soient, ces enfants soient accessibles et que des services existent, des services de prise en charge existent dans ces zones-là.
On peut encore mieux faire selon le chef de la promotion de l'enfant. Mahamadou Douma Maïga, comment faire pour améliorer ces initiatives de protection des droits de l'enfant selon vous?
Les initiatives de protection des droits des enfants, ça peut être amélioré à travers l'information et de sensibilisation. Ça peut être amélioré la prise en charge totale, pas une prise en charge partielle, mais pas des enfants victimes d'explosifs. C'est-à-dire en ce sens que, je dis, depuis tout temps, c'est seulement les premiers soins qui sont assurés et le reste sont à la charge des parents. Parce que souvent même, il manque des infrastructures adéquates ou du personnel spécialisé pour faire face à certains cas de handicap. Et les enfants ont besoin d'être dans les centres ou dans les structures extérieures bien développées à Bamako, mais même le déplacement de ces enfants, ça pose problème.
Merci Mamadou Doumamaïga. On me signale qu'on n'a plus le temps. C'est ce qui met fin à ce grand dialogue. Nos invités étaient bien sûr Haruna Samake, chef division de la promotion à la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille. Cheikh Omar Diarra, spécialiste de protection de l'enfant à l'UNICEF. Bien sûr, elle était avec nous. Djaminatou Kanouté, présidente du Parlement Parlement régional des enfants de Bamako, et Mahamadou Douma Maïga, président de la coordination des comités de gestion scolaire du cercle d'Ansongo. Je suis Imran Akilo Maïga, à la régie vidéo Mahamadou Ouattara, à la régie vidéo Nouhoun Kiré et à la régie d'antenne, bien sûr, c'est Mahamadou Ouattara. À demain pour un autre débat.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.